Allez, on marche encore une petite heure.
Oui. Ouais, tout le monde, on est prêts.
Allez-y.
C'est parti.
C'est l'histoire d'un skipper-navigateur qui ne renonçait jamais à un objectif une fois qu'il se l'était fixé. Petit, il rêvait de course à la voile et comme il aimait rêver en grand, il se voyait premier à la plus mythique d'entre elles, le Vendée Globe. Des courses, il en a faites et remportées, la solitaire du Figaro à deux reprises, la Transat AG2R, la Transat anglaise et j'en passe. Et le Vendée Globe ? Le Vendée Globe, il l'a tenté trois fois. En 2009, il est arrivé deuxième. En 2013, il est arrivé deuxième. La troisième fois sera la bonne. En 2017, Armel Lecléache remporte le Vendée Globe. Et du même coup, à force de persévérance, il entre dans la légende de cette course, puisqu'il est le premier marin à la finir trois fois sur le podium. Alors maintenant, que faire ? Se fixer de nouveaux objectifs à atteindre. Et ainsi se poursuit l'histoire du skipper-navigateur qui ne renonçait jamais à un objectif une fois qu'il se l'était fixé.
Top ! Arrivée de Banque Populaire. Arrivée de Banque Populaire, vainqueur du Vendée Globe 2016.
J'ai rien lâché, les paramètres.
Bravo.
Bravo à lui.
Bravo Armel Lecléache.
Chaque match gagné, c'est dur. Et puis, je voulais tellement cette victoire.
Heure d'arrivée. 16h37min46s.
Bonjour Armel Lecléache.
Bonjour.
Nous étions le 19 janvier 2017. Vous remportiez le Vendée Globe. Enfin, elle va rester gravée dans votre mémoire, cette date.
Complètement. Ça a été une journée incroyable de retrouver tout ce monde à l'arrivée au Sable d'Olonne après 74 jours de mer tout seul.
Ouais.
Et puis surtout d'arriver le premier, enfin, dans ce chenal mythique. Après 10 ans de vie finalement autour de cette course, de défis, de défaites, de gagner enfin le Graal, pour moi le Vendée Globe, avec une journée voilà, de plaisir, d'émotion très très forte avec la famille qu'on retrouve, ouais. les amis, l'équipe et le sponsor.
On entendait hein, dans le son les larmes d'épuisement, de bonheur aussi on imagine. À l'intérieur, il se passe quoi exactement? Dans quel état d'esprit vous êtes?
Il y a tout qui explose un petit peu. On essaie de maîtriser pendant 74 jours beaucoup de choses à bord du bateau. C'est beaucoup de concentration, beaucoup d'anticipation, beaucoup de pression aussi, parce que c'est vrai que sur la remontée de l'Atlantique, le second, Alex Thompson, est revenu très très près du tableau arrière, du bateau Banque Populaire. Et ça a été une pression qui n'était pas forcément prévue, qui m'a mis beaucoup de tension à bord, physiquement, mentalement. Et à la fin, il y a tout qui se relâche, et donc bien sûr voilà, l'émotion de retrouver, de voir les premiers bateaux accompagnateurs, la famille, d'apercevoir les amis sur l'eau, et puis de couper la ligne d'arrivée, les premières questions des journalistes, c'est sûr que là, il y a beaucoup d'émotions dans les paroles, et puis les larmes, elles sont bien sûr naturelles, on peut pas tricher là.
Ah oui, on sent que vous ne trichiez pas. Vous vous sentez comment, 6 mois après, on atterrit au bout de combien de temps après un Vendée Globe?
On met un peu de temps à atterrir, c'est vrai que l'arrivée est très brutale, l'après-Vendée Globe est aussi très sollicitant, beaucoup de un marathon médiatique quasiment dans la foulée, 10 jours de tournée de médias. Moi je suis rentré chez moi finalement en Bretagne qu'après quasiment 2 semaines, ça a été difficile aussi pour la famille, les enfants, de comprendre ça. Et il faut quasiment 2 mois pour retrouver en tout cas l'envie de repartir sur un nouveau défi, de se remobiliser, de se repréparer. C'est quelqu'un maintenant, depuis maintenant quelques semaines, et on pense à la suite. Mais c'est vrai qu'on se rend compte aussi que la course, le Vendée Globe, a sollicité beaucoup de gens, a permis aussi à beaucoup de Français de suivre la course, notre aventure, des jeunes et moins jeunes. Et ça, c'est aussi formidable quand on le découvre après les semaines après l'arrivée.
Alors, vous aviez en 2009 tenté, enfin en 2008, le départ et l'arrivée en 2009, une première fois. Vous étiez arrivé deuxième derrière Michel Desjoyeaux. En 2012-2013, là, c'était derrière François Gabart. Mais vous étiez deuxième derrière François Gabart. Vous avez persévéré, hein, la troisième fois. Et vous avez raison de persévérer. La troisième fois a été la bonne. Qu'est-ce qui fait que la troisième fois, vous avez remporté le Vendée Globe?
Bah, je crois que je me suis bien sûr nourri de ces deux premières tentatives. C'est vrai qu'en 2008, c'était pour moi une grande découverte, l'aventure avec un grand âge. J'avais jamais passé plus de 3 semaines en mer d'affilée. Je connaissais pas les mers du sud. J'avais jamais passé plus au sud que le Brésil. Donc là, j'ai appris énormément de choses. Ça a été compliqué, difficile. J'ai mis, je crois, 89 jours pour faire ce premier tour du monde. Il me manquait même un petit peu de nourriture à l'arrivée. J'étais très affaibli, très fatigué. mais très fier d'avoir fini ce tour du monde. Pour moi, c'est déjà une victoire d'arriver au bout. C'était l'objectif que je m'étais fixé avec mon équipe. On visait pas forcément une place sur le podium ou la victoire. On n'était pas favoris. Et ça m'a donné envie, avec cette expérience, de retenter l'aventure, d'essayer de gagner la fois d'après. On a eu la chance avec Banque Populaire d'avoir un bon bateau, une bonne préparation. Et puis on est tombé sur un adversaire coriace, François Gabart, avec qui il y a eu un duel incroyable. Et puis à la fin, effectivement, c'est 3 heures d'écart à l'arrivée, ouais, après 78 jours de mer. C'est à la fois une satisfaction parce qu'on sait qu'on a bien navigué, qu'on a bien préparé les choses, parce qu'on n'est pas loin de la victoire, mais beaucoup de frustration parce qu'on sait que on est passé pas loin d'un truc incroyable, de beaucoup de temps de préparation pour en arriver là et de rater la marche la plus haute, c'est dur à vivre. Ça nous a quelque part donné confiance dans le fait d'y retourner une troisième fois. On a su tirer justement les enseignements de ce Vendée Globe là. Et on a été, je pense, beaucoup plus loin dans les détails, dans la préparation, des petites choses mises bout à bout qui m'ont permis enfin d'être le premier à gagner.
À gagner cette course qui est considérée comme l'Everest des courses à la voile, hein, le Vendée Globe. Pourquoi on dit que c'est l'Everest des courses à la voile? C'est vraiment la plus difficile des courses?
En solitaire, c'est la course la plus difficile aujourd'hui, c'est sûr. Dans son format, c'est la course la plus longue. Il n'y a pas plus long que faire le tour du monde, déjà à la voile.
Ouais, 40 000 km.
40 000 km. Il y a le parcours. On passe par, bien sûr, les trois caps mythiques, Bonne-Espérance, le cap Lewin en Australie et le cap Horn. Les mers du Sud qui sont des endroits incroyables et difficiles, hostiles. Et puis, on est sans assistance, sans escale. On est confronté à soi-même pendant 2 mois et demi, 3 mois, voire plus pour les derniers. Le dernier concurrent a mis 50 jours de plus que moi.
50% d'abandon.
50% d'abandon en moyenne. Voilà, cette année, on a eu la chance, c'est que sur les 29 concurrents, 18 étaient à l'arrivée, donc c'est plutôt une bonne année. Mais c'est vrai qu'il y a des éditions où il y a eu plus d'abandon, voire même des disparitions. Il y a déjà eu des marins qui, malheureusement, ont disparu sur cette course. Donc c'est aussi l'histoire de la course qui fait qu'elle est incroyable.
Pourtant, les petites séquences vidéo que vous tournez à bord et que vous nous envoyez, qui alimentent les médias, qu'on se réjouit à regarder, elles donnent l'impression que c'est plutôt la belle vie à bord.
Aujourd'hui, c'est Masterchef à bord de Banque Populaire. Pour le 20e jour de course, on a au menu des petites rillettes en entrée. Après, un plat de résistance, un sauté de porc à la moutarde à l'ancienne.
Et donc il vient très froid, donc vous montez qu'il fait froid. On a même l'huile d'olive qui a gelé. Elle est devenue toute dure. Et puis voilà, depuis on s'est rasé. La barbe des mers du Sud est partie. On a sorti la collection printemps-été 2013 pour les vêtements. Et on a franchi l'équateur cette nuit, un petit peu avant minuit, pour respecter la tradition maritime. On va traquer avec Neptune. Bon, il est pas très frais, mais il est excellent. Un petit coup pour le bateau aussi, bien sûr. Et on va y aller un petit peu à Neptune.
Alors c'est un petit medley de différentes séquences, on a mélangé différents Vendée Globe. Le dernier, rien qu'au bruit, vous reconnaissez sur quel bateau on est?
Bah déjà le récit que je donne dans ces sons-là, ça me rappelle effectivement chaque course. Je peux rapidement situer à quel endroit j'étais à ce moment-là sur la planète.
Ouais. C'est-à-dire quand l'huile d'olive a figé dans la bouteille, vous savez où vous étiez à ce moment-là?
Bah là, il n'y a pas de doute, hein, on est dans les mers du Sud, on est dans l'océan Indien, Pacifique, où il fait... en moyenne 3 à 4 degrés dans le bateau, à l'extérieur c'est pas beaucoup plus, voire souvent beaucoup moins, et c'est des conditions difficiles. Donc oui, on se rappelle de ces moments-là, c'est aussi grâce à ces vidéos qu'on a des souvenirs de la course, parce qu'on oublie facilement ce qu'on a vécu pendant toutes ces traversées.
Et quand vous débouchez le champagne, là, vous trinquez à Neptune, ça veut dire quoi ça?
Alors là, c'est une tradition maritime que j'essaie de respecter avec quand on passe l'équateur. On doit faire une offrande à Neptune. Donc il y a effectivement à bord du bateau, j'amène 2-3 petites bouteilles de champagne pour trinquer avec le dieu des océans, qui va nous laisser passer, qui va nous donner l'autorisation de faire le tour du monde. Donc il faut à la fois à l'aller, il faut passer le péage, et puis au retour, il ne faut pas oublier, parce qu'on repasse une deuxième fois l'équateur quand on remonte l'Atlantique. Donc effectivement, c'est des conditions où il fait souvent très chaud. On est à l'équateur, il fait 30-35 degrés. Puis il y en a une pour le cap Horn, qui est important aussi, c'est le cap mythique qui termine un peu les mers du Sud. On a pendant quasiment un mois des conditions difficiles. De passer le cap Horn, c'est la fin de cette période compliquée. On est aussi à peu près au moment de Noël et Nouvel An, donc on fête Noël à bord, on passe Nouvel An sur le bateau. Alors c'est Rien à voir, bien sûr, avec ce qu'on fait à terre. On est tout seul déjà, et puis bon, il n'y a pas beaucoup de temps pour fêter ça. Mais d'avoir juste une petite bouteille de champagne, en tout cas pour passer l'événement, c'est assez sympa.
Mais il y a quand même ce paradoxe, c'est-à-dire que vous êtes à l'autre bout du monde, vous êtes en réelle situation de danger parfois, et en même temps, on a l'impression d'une extrême proximité. Est-ce que vous partagez aussi cette impression de rester connecté à notre monde à bord de votre bateau ?
Bah, on a effectivement la chance d'avoir depuis pas mal d'années les évolutions en termes de communication. On a le téléphone satellite, donc on peut appeler effectivement à terre régulièrement, mais ça marche pas toujours très bien, ouais. Le son est pas toujours très bon, même des fois on se comprend pas très bien, donc c'est pas forcément toujours facile d'échanger, notamment avec sa famille, ses enfants. On peut même être assez frustré finalement quand on raccroche parce qu'on s'est pas bien compris. Mais on sait qu'on est pas loin des gens qui nous suivent, qui nous accompagnent. C'est très important d'avoir ce soutien-là, d'avoir cette sécurité-là aussi. Si jamais on est confronté à des problèmes importants.
Il y avait dans ces extraits de vidéo le son omniprésent. Alors évidemment, ça tabasse en permanente. Hein. Vous dites vous-même, on voit peu la mer quand on est dans notre cockpit, là, tel un pilote de Formule 1.
Bah, c'est vrai que le bateau, il est difficile à vivre. On a peu de confort déjà pour dormir, pour manger. Et puis en plus, bon, c'est des bateaux de course, donc l'inconfort sonore est très présent. C'est très bruyant, beaucoup d'eau de mer qui passe sur le pont, ça tape beaucoup, ça siffle dans les voiles, dans le gréement. Mais moi, j'ai besoin d'être à l'écoute de mon bateau. On s'habitue à ces bruits-là, et dès qu'il y a des bruits un petit peu inhabituels ou différents, ça nous permet d'être en alerte pour éventuellement prévoir, anticiper un problème technique. Donc effectivement, au bout d'un moment, très vite, on fait corps avec le bateau, on est à l'écoute, mais aussi on sent le bateau quand il avance bien, quand il est bien réglé. Et à l'arrivée d'un Vendée Globe, quand on a passé quasiment 3 mois en mer, moi je le maîtrise quasiment sur le bout des doigts, les yeux fermés presque.
Armel Lecléache, vous allez nous raconter comment vous avez vécu cette course depuis votre bateau, la stratégie, les coups du sort et comment vous y avez fait face. Le vainqueur du Vendée Globe 2017 accoste dans le temps d'un bivouac sur France Inter.
Je me baladais, j'étais perdu. Quand je t'ai croisé, bel inconnu. D'un simple regard, j'ai deviné le parfum fragile d'un cœur brisé. Si seulement je t'avais dit salut, il me semble qu'on se serait plu. Mais Cupid, on n'a pas décoché. Et j'ai continué à marcher.
C'était Cœur croisé de Polo et Pan sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Minuit passé d'une minute ou deux, Titouan Lamazou, encalminé depuis plusieurs heures, franchit enfin la ligne d'arrivée. Après 109 jours, 8 heures, 48 minutes et 50 secondes de mer. Libération ou fin d'un moment privilégié extraordinaire, nul ne sait. Les amis sont là, Poupon en tête. Et ce sont les retrouvailles, notamment avec sa petite fille. Quelques minutes plus tard, Titouan Lamazou se retrouve lâché au milieu d'une faune de journalistes et de curieux. Lamazou ne s'appartient plus l'espace d'un instant. Délire d'une foule et d'une presse venue admirer un héros de la fin du siècle. Difficile retour sur terre, il paie en fait l'émotion qu'il a causée. Lamazou l'a dit, je l'ai cherché, même s'il le veut, à partir d'aujourd'hui, il ne peut éviter la gloire.
Il ne peut éviter la gloire. Le ton est un petit peu grandiloquent. Nous étions le 16 mars 1990, le journal d'Antenne 2 à l'époque. Premier Vendée Globe. Le vainqueur est Titouan Lamazou. Vous, Armelle Lecléache, vous aviez 13 ans.
J'avais 12 ans, voilà, et j'étais effectivement admiratif. Je suivais déjà à l'époque les grandes courses à travers les médias, la télé, la radio et puis la presse. C'était incroyable. C'était des précurseurs. Quand ils sont partis, je me rappelle que ça avait jamais été fait, une course sur large en solitaire comme ça autour du monde sans escale, sans assistance. Beaucoup étaient assez sceptiques de savoir combien allait revenir, combien était à l'arrivée. Ouais. Et puis finalement, voilà, ça a été le début de l'histoire du Vendée Globe, parce que derrière, voilà, il y a eu toutes ces éditions. Moi, j'ai gagné la 8e, mais pour moi à l'époque, c'était un souvenir incroyable.
C'était déjà un rêve. À 12 ans, vous vous y voyez vainqueur de ce Vendée Globe?
Pas du tout. Moi, j'étais admiratif. J'avais les posters dans ma chambre de ces grands marins de l'époque. Moi, je vivais un peu par procuration à travers leurs récits, ce qu'ils nous envoyaient. Beaucoup de sons, peu d'images à l'époque. Mais non, je ne me voyais pas du tout capable de faire ce tour du monde. Je naviguais déjà à l'époque en bateau. Je faisais des compétitions en optimiste. Donc voilà, j'étais déjà dans mon propre défi à moi. Mais en tout cas, c'était très sympa d'aller voir ces départs de grandes courses aussi. J'ai eu la chance d'aller plus jeune avec mes parents à Saint-Malo, voir le départ de la Route du Rhum, de voir ces bateaux incroyables, ces géants de la mer. Quand on a 10-15 ans, on est en admiration.
Vous avez commencé très tôt, hein, la voile. Je crois dans la baie de Morlaix, vous êtes entraîné. Je vous propose d'écouter la voix de votre père, Jean-Gabriel Lecléache, que France 2 a été interviewé dans cette fameuse baie de Morlaix.
On a toute la baie, là, sur 360. Il n'y a qu'à admirer cette baie magnifique. Très pédagogique quand on voit le nombre de rochers, le nombre de cailloux, enfin tout. On nous disait, vous avez appris à naviguer en baie de Morlaix, vous saurez naviguer à peu près partout parce que vous avez tous les éléments ici pour apprendre. Donc voilà. Et ça s'est confirmé, effectivement. Ouais. J'ai essayé de transmettre à mes enfants ma passion. Ils ont un peu d'eau de mer dans les veines, je pense, qui circulent.
Quand Armel vous dit je vais faire mon métier.
Quand il nous dit qu'il va devenir professionnel, on est un peu sceptique, hein, on est un peu inquiet, même, faut dire les choses. Hein. À l'époque, c'était pas structuré comme c'est maintenant. Donc, je suis très fier, je suis admiratif. Je reconnais que ça y est, son Vendée Globe, là, ça y est, c'est fait. Bravo, hein, félicitations. Il n'y a pas de mots.
Armel Lecléache, je voyais écouter vraiment très attentivement ce que dit votre père. Il y a à la fois cette transmission et puis maintenant cette fierté. Vous faites la fierté de votre père.
Oui, il y a un peu d'émotion. Bien sûr, c'est mes parents qui m'ont donné la passion de la mer. J'ai eu la chance d'avoir un papa qui aimait naviguer. Alors pas en compétition, mais pour le plaisir. On avait un bateau de croisière familial avec lequel on partait en vacances l'été. On était 4 enfants et voilà, en juillet, on traversait la Manche, on allait dans les îles anglo-normandes, des fois en Irlande, et pas toujours facile, hein, quand on est petit, oui. J'étais un peu malade en mer.
C'est ça, ça aurait pu tourner court, hein, c'est-à-dire qu'avec le mal de mer étant petit, vous auriez pu assez rapidement vous désintéresser de l'exercice.
Ouais, c'est vrai, mais voilà, c'était très heureux aussi d'arriver au bout de la traversée, de découvrir aussi ces îles. On passait quand même beaucoup de temps au mouillage, faire des petits trajets, et là c'était la liberté complet de vivre sur un bateau, d'avoir la possibilité d'aller sur des plages, on était tout seul, et finalement c'est le goût de la mer, l'envie d'être sur un bateau tout simplement, qui m'a animé, et je pense que ça m'a aidé après à rentrer dans la compétition, parce que mes parents m'ont jamais poussé à la compétition, m'ont jamais donné le goût d'être performant ou d'être le vainqueur ou le premier, ça c'est venu plus tard.
Oui, parce qu'indéniablement, aujourd'hui, vous l'avez. Hein, vous êtes davantage un compétiteur qu'un aventurier. Je vous blesse pas si
ah non,
je vous
tout
dis
à fait.
Ça.
Moi, je me qualifie plus effectivement comme un sportif qu'un aventurier, notamment sur le Vendée Globe. C'était ma raison de partir. Mon engagement était vraiment pour la compétition. Bien sûr, on allait vivre une aventure. Le Vendée Globe, dans sa durée, dans son scénario, personne ne... capable de décrire le scénario qui allait se passer, et puis la preuve, il s'est passé énormément de choses.
Vous avez écrit des scénarios incroyables.
Incroyables, hein, et à chaque édition, c'est différent et génial. C'est... Mais voilà, moi, ce qui m'anime, c'est la compétition, la performance. J'ai été nourri, je pense, aussi plus jeune par tous les sports que je suivais. J'aimais bien suivre l'actualité sportive, du grand sportif aussi. Bien sûr dans la voile comme Éric Tabarly, Philippe Poupon, toujours Lamazou et d'autres, et puis dans d'autres sports, Bernard Hinault, Roger Federer plus tard, enfin voilà, ces grands sportifs qui pour moi sont des exemples qui m'ont aussi donné envie de pourquoi pas d'essayer de faire un peu à ma manière, d'écrire certaines pages de l'histoire de la voile.
Vous ne vous imaginiez pas comme ce navigateur Bernard Moitessier, écrivain également, qui lui alors a fait des courses, mais en pleine course, un peu pris par l'ivresse de la mer et du voyage, a décidé d'abandonner. Racontez, vous la connaissez bien cette histoire.
C'est une histoire incroyable. Bernard Moitessier participait donc à l'époque au Golden Globe. C'était une course qui avait été lancée à travers l'Europe, qui était initiée par les Anglais. Et donc chaque concurrent partait d'un petit peu où il voulait, de France, d'Angleterre ou d'Espagne, et puis devait faire le tour du monde. Alors à l'époque, il n'y avait aucun moyen de communication, c'était des bateaux beaucoup plus petits, beaucoup moins rapides, mais une aventure incroyable. Et puis Bernard, moi aussi, qui se retrouve en tête de course, passe le Cap Horn en tête. Donc bien sûr, les médias commencent à s'intéresser à cette histoire incroyable. Et il décide, quelques jours après, de continuer à naviguer et de repartir dans les mers du Sud, de refaire un tour du monde quelque part. Donc voilà, il ne veut pas rallier l'Europe, la France, parce qu'il a quelque part pas envie de retrouver ce monde qu'il a quitté. Il se sent vraiment en harmonie avec les éléments, la nature. Il refait le tour du monde et finalement, il finit par s'arrêter en Polynésie française, dans un endroit où il n'y avait pas beaucoup de monde pour son arrivée.
Ouais, il a écrit, Bernard Moitessier, « On n'empêche pas une mouette de prendre le large ». C'est tout à fait ça, mais vous, finalement, c'est pas ce goût de la liberté qui vous attire quand vous partez en mer?
Non, bah, c'est sûr que ce serait en plus aujourd'hui difficile, finalement, de vivre la même chose avec tout ce qu'on a comme technologie. On est suivi, bien sûr, avec les classements, les positions, quasiment toutes les minutes. Mais on vit quand même une aventure à travers la course. On est défié aux mêmes éléments. Et c'est ça qui fait la force de notre sport. C'est que de toute façon, la nature prendra toujours le dessus, que ce soit la mer, le vent. Et quand on est confronté aux mers du Sud, au Cap Horn, moi j'ai eu la chance de lire La Longue Route de Bernard Moitessier, qu'il avait écrit après cette aventure. Ouais. Je l'avais même amené à bord de mon bateau sur le premier Vendée Globe pour comprendre un peu comment lui avait vécu son tour du monde 30 ans ou 40 ans avant moi. Et on retrouve quand même pas mal de points communs. Finalement, sur l'échange avec la nature, l'humilité qu'on peut avoir par rapport à ça, la rencontre aussi avec les animaux marins, il parle beaucoup des oiseaux, les albatros qui nous accompagnent dans les mers du Sud, c'est juste incroyable. Quand on n'a jamais vécu ça, on peut pas se rendre compte. Et quand on voit ces premiers albatros qui commencent à suivre le bateau, et puis pendant plusieurs jours, ils sont derrière nous, il y a une magie qui opère.
Alors, vous avez quand même le temps de les voir, ces albatros, de les voir, ces animaux marins, parce que vous dites, quand je suis sur mon bateau, je suis équipé de lunettes de ski, j'ai des genouillères, vous êtes en armure sur votre bateau, sinon quand vous êtes dans votre cockpit, les vagues, les paquets de mer qui viennent frapper les vitres de votre bateau, finalement, on a l'impression que vous êtes dans une bulle, que vous traversez tout ça sans vraiment en profiter.
Alors, il y a quand même des moments où on peut profiter un peu plus du paysage autour et des animaux qu'on peut croiser ou qui nous suivent. C'est vrai qu'il y a des conditions difficiles souvent, mais il y a aussi des moments où la tempête se calme. Et ces moments-là aussi, il faut les apprécier, parce qu'on sait que ça ne dure pas souvent très longtemps, que la tempête suivante va bientôt arriver. Et c'est là où ces moments aussi, on essaie de se reposer physiquement, mentalement, et aussi d'apprécier dans l'endroit dans lequel on est. On est des privilégiés. Moi, j'ai vu des ciels étoilés incroyables, et on sait qu'on est tout seul sur cette planète à vivre ce moment-là unique sur son bateau. Et on a cette chance, quand on retrouve la vie de tous les jours, on sait qu'on a eu la chance d'avoir ces moments-là.
Il y a une part de stratégie aussi hein, dans cette course, vous le dites, hein, vous êtes là pour gagner. Alors quand on n'est pas de la partie, qu'est-ce qu'il y a comme choix stratégique à faire quand on est skipper? On se dit, si vous êtes arrivé trois fois, les trois derniers Vendée Globe, vous avez terminé sur le podium, c'est pas un hasard, vous aviez certainement des bons bateaux, mais certainement aussi de bonnes stratégies. C'est quoi la stratégie?
Bah déjà, la stratégie, elle se prépare en amont. C'est-à-dire qu'il faut déjà bien se préparer pour un tour du monde. Ça se fait pas en quelques semaines. Il faut du temps pour bien connaître son bateau, préparer tous les éléments avec lesquels on va travailler pendant la course, c'est-à-dire la météo, le physique, l'alimentation, le sommeil, anticiper énormément de problèmes qui pourraient subvenir. Et puis ensuite, pendant la course, on doit bien sûr gérer sa stratégie. C'est nous, chaque skipper qui choisit sur notre route, on n'a pas d'assistance météo, on n'a pas d'assistance sur les choix à prendre pendant la course.
Et comment on vérifie ça? Je me suis posé la question, parce qu'effectivement, il n'y a pas d'assistance météo, mais vous êtes en permanence en contact avec des tas de gens au téléphone, c'est-à-dire que vous êtes sur écoute, on vérifie que personne ne vous donne d'informations qu'il ne devrait pas vous donner.
L'équipe avec qui on travaille, le sponsor, donc sont soumis bien sûr au même règlement, et donc on a des engagements vis-à-vis de l'organisation, de la direction de course et l'organisation du Vendée Globe. Donc voilà, on joue tous le jeu, bien sûr. Il n'y a pas de tricherie. De toute façon, sur la course du Vendée Globe, on est les premiers responsables de la météo à bord de bateau. Et donc, on a aujourd'hui un système qui fonctionne très bien, c'est-à-dire on a un serveur sur lequel on va se connecter comme tous les autres skippers, avec toutes les informations météo qui sont disponibles. Et après, chacun va faire sa propre analyse, sa propre stratégie, ses choix, parce que bien sûr, ça dépend à la fois de la météo, mais aussi de la position des concurrents, des problèmes techniques qu'on peut avoir, parce que le bateau ne peut être par moment n'est plus à 100%, donc il faut aussi savoir modifier sa route en conséquence. Ouais. Tout ça mis bout à bout, voilà, c'est une équation qui est difficile à résoudre. Il y a une route météo idéale pour partir des Sables d'Olonne et revenir en Sables d'Olonne. On l'atteint jamais. L'objectif, c'est de se rapprocher au maximum pour faire le meilleur choix possible sur l'eau.
Et dans la stratégie, il y a aussi, vous l'avez dit largement dans les médias, il y a aussi le bluff, c'est-à-dire que quand on a des problèmes à bord, on essaye de ne pas trop s'apesantir, voire de ne pas du tout le dire, pour pas que les autres concurrents soient informés des difficultés à bord. Mais apparemment, là-dessus, on ne peut pas vous reprocher de le faire. Apparemment, ça se fait depuis toujours, puisque Titouan Lamazou, dont on parlait tout à l'heure, lui aussi, au retour de son premier Vendée Globe qu'il a remporté en 1990, voilà ce qu'il disait.
C'est peut-être pas très 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 fair play, mais quand on est en mer et quand on est en course, si on apprend, enfin moi, si j'apprends qu'un concurrent a des ennuis, eh bien ça me file la pêche. Parce que ça veut dire qu'il est amoindri, ça veut dire qu'il aura moins de chances de gagner, et ça veut dire que moi j'aurai plus de chances, donc ça me file la pêche si je veux pas donner à mes concurrents le sentiment que je suis en difficulté. Et ce qui fait que les avaries, bon, je les raconte, mais uniquement quand c'est réparé, quand c'est réglé. En radio, j'ai essayé de dramatiser dans les vacations, c'est-à-dire de dire, de forcer un peu la peur, essayer de la communiquer aux autres. C'était un principe au départ. Ne jamais dire que ça va pas.
Ça n'a pas changé, hein, de ce point de vue-là, Armel Le Cléache.
C'est étonnant parce que j'ai un peu la même façon de faire et en 30 ans, ça n'a pas changé. Alors après, chaque concurrent choisit de communiquer ce qu'il a envie de dire. Mais c'est vrai que de pas donner faux espoirs aux concurrents directs, de montrer finalement une certaine motivation, énergie à travers les vacations, peut influencer certains concurrents. C'est vrai que moi, j'ai essayé de, même dans les moments difficiles, les moments de doute, de dire que tout va bien à bord de Banque Populaire, que j'avais pas de problème technique.
Ouais. Alors que vous en avez eu un et sérieux.
Hein, et j'en ai eu plusieurs, et dont un sérieux dans le Pacifique, qui aurait pu me coûter la course.
Et donc, en l'occurrence, c'était quoi?
Alors, j'ai eu en fait une voile qui est tombée à l'eau au milieu du Pacifique, suite à la casse d'une pièce qui la tenait en tête de mât. Cette pièce avait un défaut de construction, et malheureusement, en échangeant avec mon équipe sur la possibilité de le réparer ou pas, on a très vite compris que les autres pièces aussi à bord du bateau avaient le même défaut.
Donc il y avait cette épée de Damoclès, de pièces qui pouvaient rompre à tout instant et tout mettre par terre. Quand on vous a dit ça, quelle a été votre réaction à bord? Vous êtes en pleine mer et on vous dit le bateau, en gros, peut se déliter à tout moment, en tout cas les voiles peuvent tomber.
Ah, c'était quasiment le moment le plus difficile pour moi. Déjà, on comprend pas.
Ouais. Comment ça a pu arriver?
Bah, moi, c'est pas possible. Moi, je dis, c'est pas possible. Enfin, il y a sûrement une solution. Mais non, il va falloir accepter de vivre avec. Bien sûr, quelques larmes parce que, on craque un peu. Moi, j'étais sous pression. Ouais. Et après, on essaie de trouver des solutions. De toute façon, c'est la vie, hein. Le Vendée Globe, c'est un concentré de vie, hein, comme j'essaie souvent de le dire. Donc voilà, on essaie de trouver des solutions, de s'adapter à ce qui va être différent. Et puis j'ai essayé de trouver avec l'équipe des moyens d'utiliser les voiles en conséquence, de surveiller les pièces. Et ça a tenu, et tant mieux, il y a eu un peu de réussite de ce côté-là.
Ouais, quand on parlait de stratégie, hein, ça paraît presque incroyable que vous ayez remporté ce Vendée Globe quand on sait ça. Allez, vous allez nous dire dans un instant quels sont vos futurs défis, et puis on reviendra aussi sur quelques-unes des plus grosses frayeurs que vous avez eues en mer. Armel Lecléache est avec nous, le temps d'un bivouac sur France Inter jusqu'à 18h. C'était Bofou Safou, Amadou et Mariam passent par le temps d'un bivouac sur France Inter.
Alors VM Matériaux, ça y est, je l'ai trouvé. Bon allez, je vous laisse parce qu'il faut que je regarde si j'arrive à voir Jean.
Jean est en vie, mais prisonnier à l'intérieur de son bateau.
Pour moi, le principal danger, c'est le froid et l'hypothermie. C'est à ce moment qu'on s'est organisé à Armel pour faire des rondes autour du bateau, parce que ma première crainte, c'était qu'à un moment, il essaye de sortir et qu'il n'y ait personne à la sortie.
6 janvier 2009, nous étions dans l'une des expériences certainement les plus dures que vous avez dû vivre, Armel Lecléache, à 200 milles à l'ouest du Cap Horn. On vous demande de vous dérouter de votre route pour aller secourir un skipper qui s'est retourné, Jean Lecam. Donc là, évidemment, vous acceptez vous-même et puis un autre, Vincent Rioux. Sauf que vous y allez, à ce moment-là, vous ne savez pas s'il est encore en vie, s'il est encore sur son bateau, ce que vous allez trouver en arrivant.
Exactement, on a eu effectivement ce message de la direction de course qui nous suit de nous dire que effectivement Jean Lecam avait en tout cas une de ses balises de détresse avait été déclenchée, que le bateau n'avançait plus, mais on n'avait pas de nouvelles de Jean Lecam. Quand on apprend l'événement et qu'on imagine les scénarios possibles, il y a un peu de peur qui s'installe, parce que Jean, on se connaît un peu tous les marins bien sûr au départ, on ne sait pas s'il est encore en vie, on ne sait pas s'il est encore à bord, parce que les balises de détresse peuvent se déclencher de façon automatique. Et on ne sait pas comment on va pouvoir le sortir de là. Et c'est vrai que quand on arrive sur zone, avec Vincent arrive en premier, il m'appelle, il me dit, bah, écoute, le bateau est à l'envers, il a perdu sa quille, j'arrive pas à contacter Jean, je ne sais pas s'il est à bord. Donc on décide de se relayer, parce que la nuit va tomber, il fait très froid, 4-5 degrés, les conditions sont hostiles. On se dit, bah, déjà, on va essayer de voir s'il est encore à bord de son bateau. Donc on a essayé de lancer des objets sur la coque pour essayer de l'alerter de notre présence. Et au bout de quelques dizaines de minutes, on a eu une réponse. Il a réussi à sortir par un des trous du bateau.
Le déjà, soulagement que ça a dû être,
déjà, le
on
soulagement
imagine.
Pour dire, voilà, il est à bord, il sait qu'on est là. Et je pense que lui, enfin, quand on a échangé après, lui, il savait aussi qu'il n'avait pas beaucoup de temps à rester dans son bateau, parce que avec le froid, l'hypothermie possible, même s'il était équipé de sa combinaison de survie, il n'avait pas beaucoup de temps d'heures possible de survivre. Donc il fallait qu'il sorte du bateau. Et donc on s'est relayé à tourner chacun notre tour autour du bateau très près, parce que le moment où il allait sortir, on avait quelques minutes pour le récupérer, parce que bon, voilà, avec la mer forte et les conditions difficiles, il ne pouvait pas nager très longtemps dans ces conditions-là. Et puis c'est au moment où Vincent était sur place que Jean est sorti et que Vincent a pu récupérer Jean à bord de son bateau. Et bon, voilà, après ça s'est bien terminé. Je les ai accompagnés pendant quelques heures pour voir que tout allait bien. Jean était en bonne condition. Et puis après, moi, le lendemain, je passais le Cap Horn. Donc c'était deux journées très très fortes.
Champagne, on a dit. Hein, quand on passe le Cap Horn, c'est champagne. Vous avez connu un autre chavirage. Cette fois-ci, c'était en 2005 dans la Transat Jacques Vabre. C'était dans un bateau à deux avec un co-skipper, Damien Foxal. Comment ça s'est passé?
On était une course effectivement qui partait du Havre, qui allait au Brésil en double. C'était la deuxième nuit de mer. On était dans le golfe de Gascogne. Il y avait des conditions très difficiles, une grosse dépression donc qu'on devait traverser avec des vents de 40-50 nœuds, des creux de 6 à 7 mètres. Voilà, on avait essayé d'anticiper les choses, de bien préparer le bateau en conséquence, de réduire la toile au maximum. On était plutôt confiant dans la façon d'aborder ce genre de conditions qu'on avait déjà traversées. Et puis malheureusement, plein milieu de la nuit, voilà, une rafale de vent un peu plus forte qu'une autre, à un moment où on était en train de manœuvrer, a fait qu'on a chaviré très vite. Alors, en quelques secondes, le bateau a basculé. Moi, j'étais à la barre du bateau, je me suis retrouvé à tomber quasiment de 10 mètres de haut en plein milieu de l'océan. Le bateau s'est mis à l'envers, j'ai réussi à nager jusqu'à la plateforme. Et donc là, de nuit, bien sûr, et on essaie de survivre à ce moment-là, c'est la peur qui peut s'installer. Et puis très vite, où était Damien? Et les premières secondes, les premières minutes, je ne l'ai pas vu tout de suite. Je ne sais pas où il était. Je l'ai appelé, je criais. Damien, en fait, était bloqué sous le bateau, entre une pièce du cockpit et la baume. Et puis, bon, c'est un Irlandais qui a une force incroyable, une volonté, qui a réussi à se dégager. Je ne sais pas comment il l'a fait, mais en tout cas, il a réussi à s'extraire de ce blocage. Et j'ai vu apparaître au-dessus de l'eau quelques minutes plus tard. Puis voilà, j'ai vu qu'il était blessé, qu'il n'était pas en grande forme. Et donc voilà, on l'a récupéré et on a bien sûr déclenché les secours. On a été litrouillé 7 heures plus tard. C'était un moment assez difficile à vivre, très difficile, ouais.
Alors, ce sont des moments difficiles. Je vous les fais raconter pour qu'on mesure aussi, parce qu'on a commencé de façon un peu légère avec des petites vidéos que l'on voit avec plaisir. Il y a aussi cette part de risque, de danger dans ces compétitions auxquelles vous participez. Toutes ces épreuves, on imagine qu'elles vous ont marqué. Quels enseignements vous en avez tirés et en fait, comment vous vous arrangez avec ce risque?
Le risque est bien sûr présent, pour les gens qui font de la montagne ou le sport automobile et plein d'autres sports. Il faut vivre avec, bien sûr. Il faut savoir préparer les choses en cas de problème. On a des formations sur la sécurité, sur la formation médicale. On apprend à se soigner, notamment si on a des pépins pendant la course et notamment sur un Vendée Globe, parce qu'on sait qu'on ne sera pas forcément tout de suite dans un hôpital avec un médecin et pour nous aider à solutionner le problème.
Vous savez vous recoudre vous-même en cas de fortes lésions, de coupures importantes. Vous savez faire tout ça.
C'est ça, on a appris à se recoudre. Alors je rigole parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez compliqué au départ. Moi, je n'ai pas une formation de médecin et donc voilà, au début, on apprend à utiliser un fil et une aiguille. Très vite, on se rend compte que c'est pas du tout pratique quand on est en mer tout seul, surtout quand si on a une main qui est blessée, donc on n'a plus qu'une main pour faire ça. Donc très vite, avec la discussion avec les corps médicaux avec qui on a travaillé, c'était de se dire bon voilà, qu'est-ce qu'on peut trouver comme outil qui peut fonctionner. Donc là, on a l'agrafeuse médicale qui est arrivée dans la discussion. Voilà, c'est un système un petit peu barbare entre guillemets, mais qui fonctionne très bien parce qu'on est obligé d'aller à l'essentiel. Là, c'est un instinct de survie. On a une blessure importante, une coupure qui peut engendrer un grand saignement. Donc voilà, tout de suite, il faut réparer ça. Et c'est vrai qu'on a une formation là-dessus. On a une combinaison de survie, un téléphone satellite qui est dans un boîtier étanche, des fusées s'il y a besoin pour se faire repérer. Donc tous ces moyens-là, on sait les utiliser, on les a pratiqués à l'entraînement. Et puis, quand l'événement arrive, il faut savoir les utiliser de façon efficace.
Vous repartirez pour un quatrième Vendée Globe?
Ah, aujourd'hui, j'ai dit que j'avais tourné la page. C'est vrai que j'en ai fait 3 d'affilée. Les 3, je les ai terminés, donc c'était pas mal. Et puis d'avoir gagné Cette année, ça a été pour moi l'aboutissement de 10 ans de vie, finalement, après ce défi que je m'étais donné. Beaucoup d'engagement aussi personnel, beaucoup d'engagement de familial, parce que voilà, on part tout seul, mais on engage toute sa famille, bien sûr tous les gens qui travaillent avec moi. Donc j'avais envie de passer à autre chose. On a la chance avec Banque Populaire d'avoir un autre défi. On va construire un grand trimaran qu'on va mettre à l'eau cette année avec une route du Rhum l'année prochaine qui sera aussi un beau challenge ouais. Que je n'ai jamais gagné.
Vous êtes déjà arrivé deuxième à la route du Rhum, donc et là encore coup du sort. Alors cette fois-ci, je ne sais pas si vous avez eu besoin de vous recoudre avec la graffeuse. Hein. Peu de temps avant de partir, vous vous êtes blessé à la main bêtement dans un lavomatique pour voiture. Et du coup, c'est Loïc Perron qui a pris route dans l'embarcation qui était prévue pour vous, dans votre bateau. Et c'est lui qui a gagné la course. Donc on comprend qu'il y a un petit compte à régler avec la route du Rhum quand même.
Ouais, il y a une revanche un peu personnelle sur mon sort, effectivement en 2014, où malheureusement... dû déclarer forfait à cette route du Rhum qui était pour moi un objectif important avec un bateau qu'on avait bien préparé. J'étais annoncé comme l'un des favoris et voilà, là ça a été compliqué effectivement à vivre parce que en quelques secondes tout bascule. Bon, finalement ça a été pour le team une victoire au bout, donc tant mieux. L'objectif était rempli, mais pour moi une vraie frustration, une vraie déception. Je pense que ça m'a aussi permis peut-être d'être encore plus fort peut-être pour la suite des événements, notamment l'année prochaine, d'être au départ avec un nouveau bateau. Mmh. Là, cette fois-ci, je ne vais pas rater le coche.
Armel Lecléache, vous restez avec nous. On a un certain François Gabart au téléphone pour vous.
She can't so walk in the dark. Guess a walking bird dog. If you don't know how to do it, I'll show you how to walk the dog. Come on now, come on, come on. I asked my mama for 15 cents. See the elephant jump the fence. He jumps the high. Touch the sky. Never got back till the 4th of July. Walking the dog. Just a walking the dog. If you don't know how to do it, I'll show you how to walk the dog. Come on now, come on, come on. Mary, Mary, quite contrary. Tell me, how does your garden grow? You got silver bells and you got cockle shells. Pretty maids all in a row. Walking bird dog. Just a walking bird dog. If you don't know how to do it, show you how to walk the dog. Come on now, come on, come on.
C'était Walking the Dog, Rufus Thomas sur France Inter dans le temps d'un bivouac dont Djoubaka signe la programmation musicale. Et j'en profite pour vous dire qu'aujourd'hui, France Inter fête le 60e anniversaire d'un des labels mythiques de la soul et du rhythm and blues américain. Stax Records, c'est le nom de ce label. Vous pouvez retrouver sur le site de France Inter une playlist entièrement consacrée à Stax Records et aux artistes qui ont marqué l'histoire de ce label, tels que Otis Redding par exemple.
Bonjour, bonjour! Bienvenue à bord de Massif en ce jeudi 20 décembre. On est pas loin de l'île d'Auckland, là, dans le sud de la Nouvelle-Zélande. Il y a pas mal de vent, entre 30 et 40 à peu près. Toujours une grosse mer qui déferle, c'est pas facile, petits albatros. Et là, juste avant, faut attendre que la vague descende, il y a Banque Populaire. Il est à 20 longueurs. Hein. C'est depuis 2 heures qu'il est là, j'ai essayé de l'appeler à la VHF, il répond pas, hop là vous le voyez. Ah ah, c'est lent non? C'est énorme. Non, mais par contre, je vois pas à l'AIS et j'essaie de l'appeler à la VHF et ça marche pas. Je sais pas si. J'espère que ça marche de mon côté, je sais pas si juste éteint ou ça marche pas de mon côté. Mais c'est hallucinant! Mon 49, des roues de vagues.
Nous étions à bord du bateau de François Gabart le 20 décembre 2012 et vous étiez véritablement au coude à coude hein, puisque il vous aperçoit, il voit votre bateau devant lui, Armel Lecléache. Ça a l'air de l'amuser beaucoup, mais il n'arrive pas à vous joindre apparemment. Vous étiez sur répondeur, vous étiez trop occupé pour répondre.
Non, je crois que j'étais pas sur le bon canal VHF à ce moment-là et c'est vrai que ça a été incroyable avec François ce duel parce qu'il a commencé quasiment dès le départ et dans les mers du Sud, on s'est pas lâché d'un mètre quasiment, on s'est croisés souvent l'un et l'autre, on a alterné en tête de course et c'était une belle histoire aussi.
Alors cette fois, vous allez pouvoir lui parler directement, il est avec nous. Bonjour François Gabart. Alors vous êtes arrivé trois petites heures sur cet avant-dernier Vendée Globe, trois petites heures avant Armel au Sable d'Olonne, après 40 000 km parcourus, près de 80 jours en mer et trois petites heures qui vous séparent à l'arrivée. On a suivi ça avec passion, nous, hein, dans les journaux évidemment. Comment vous avez vécu, vous, François Gabart, cette fin de course dans un mouchoir ?
C'est une expérience extraordinaire, évidemment je le vis bien parce que ça s'est bien terminé pour moi. Je pense qu'on a tous les deux vécu avec Armel une course extraordinaire. On était je pense sur un moment de la course, sur le moment de l'histoire du Vendée Globe où il y avait vraiment l'aventure qui est omniprésente dans le Vendée Globe et sur ces tours du monde est venue à se mêler un petit peu, même beaucoup, beaucoup de compétitions. Et c'est vrai qu'un duel comme ça, aussi beau pendant aussi longtemps pour des compétiteurs comme nous, c'était juste parfait.
Ouais, Armel Lecléache, vous avez dû le maudire à certains moments, ce François Gabart, parce que pendant longtemps vous étiez en tête et puis voilà, sur la fin, il est passé devant, ça, rageant.
C'est vrai que pour moi, il y a la déception à l'arrivée parce que je ratais la victoire. Maintenant, François avait complètement mérité ses Vendée Globe. Il avait très bien navigué. Il y avait eu un duel incroyable comme on peut rencontrer dans beaucoup de sports. Je faisais souvent le comparatif avec un match de tennis en 5-7 où finalement, à la fin, François a fait le break et puis il l'a gagné sur le 5e set. C'était un peu ça où moi, j'avais rien à redire sur sa performance. C'était plus à moi d'essayer de comprendre pourquoi à un moment, j'avais pas été meilleur que lui ou réussi à être le premier au Sable d'Olonne. Mais voilà, c'était une belle, comme dit François, un super duel, une super histoire qui a passionné beaucoup de gens, qui ont permis aussi à beaucoup de marins peut-être de vouloir prendre le départ de cette course, parce que c'est vrai qu'il y a un côté aventure, mais un côté sportif qui est très important sur ce Vendée Globe.
Alors vous avez l'un et l'autre des profils très proches, ingénieur, compétiteur, on l'a entendu, un compétiteur dans l'âme. Alors l'un, à vous, vous nous l'avez dit tout à l'heure, avoir eu le mal de mer étant petit. L'autre, si j'ai bien compris, François Gabart, vous n'êtes pas forcément un très bon nageur, vous me le confirmez ?
Tout à fait, ça c'est vrai que c'est pas ma spécialité.
Alors qu'est-ce qui vous attire, François, dans ces courses à la voile ? Vous aussi, c'est la compétition avant tout, c'est pas la mer ?
Si, je crois, parce que moi j'ai découvert la mer en famille, avec mes parents, en voyage. Très rapidement après, j'ai commencé à faire de l'optimisme et j'y ai ajouté à cet élément-là la compétition. Mais pour moi, on peut pas avoir la compétition toute seule, ça serait trop réducteur. Ces courses de bateau sont tellement belles qu'on peut pas les réduire à uniquement de la compétition. Il y a un petit peu plus que ça, il y a un petit peu d'aventure, il y a un petit peu de voyage, il y a un petit peu de communion avec l'océan, quoi. Et je trouve que nos courses au large aujourd'hui, elles sont belles, elles sont extraordinaires, parce que justement, il y a un doux mélange de tout ça. Il y a une petite part de voyage, il y a une petite part d'aventure qui vient se mêler avec une compétition acerbée. Et c'est ça, je trouve, qui est beau, c'est quand il y a les deux, finalement.
Alors, on l'a compris, vous êtes tous les deux amis, hein, évidemment. Sinon, on n'aurait pas pu faire ce coup de fil, vous n'auriez pas accepté l'un et l'autre. Ça veut dire qu'il vous arrive de prendre un verre en tête à tête. Et alors, dans ce cas-là, on mesure quand même ce que l'on dit. Parce qu'évidemment, vous allez de nouveau vous affronter dans de nouvelles compétitions. Vous êtes tous les deux en train de préparer vos futurs bateaux. Comment on gère une amitié et en même temps les secrets de fabrication. Armel Lecléache, et puis après je vous demanderai aussi à vous, François.
C'est vrai que déjà ce Vendée Globe qu'on a vécu ensemble nous a rapprochés. On a eu vécu un duel incroyable et puis à l'arrivée très vite on s'est retrouvés parce que finalement on n'a pas beaucoup communiqué ensemble pendant la course, même si on s'est échangé deux trois fois par VHF. Et là on a eu besoin de se raconter ce qu'on avait vécu l'un et l'autre. et on a compris beaucoup de choses. Et puis, bien sûr, un lien qui s'est tissé grâce à ça, parce que voilà, on sait par où on est passé, on sait ce qu'on a vécu. Depuis, on n'était pas forcément sur le même circuit, donc on se croise beaucoup, notamment à Port-la-Forêt, où on se prépare, où on s'entraîne. François était parti sur un autre type de bateau, un grand trimaran. Moi, j'ai retourné assez vite sur le Vendée Globe. Et là, effectivement, on va se retrouver dans les mois qui viennent sur la même catégorie, ces grands trimarans ultimes, ouais. Avec la Route du Rhum l'année prochaine pour nous. Voilà, donc on se croise de temps en temps, ouais. On va boire un café ou on mange une crêpe. et voilà, mais il y a beaucoup d'échanges amicaux. On parle ouais. aussi de la famille, des enfants, tout simplement de la vie de tous les jours.
Ouais. François Gabart, vous aussi, vous gardez pour vous vos secrets de fabrication et de cette compétition est née quand même une amitié entre vous ?
Ouais, bien sûr, c'est vrai que c'est... On s'est retrouvé à un moment donné dans notre vie à un endroit de la planète où il n'y a pas grand monde, pour ne pas dire personne. Et grosso modo, les deux seuls êtres humains qui étaient dans le coin, c'était tous les deux, quoi.
Ouais.
Et ça, je pense que, quelque part, à un moment donné, ça nous rapproche, quoi. D'autant plus qu'on est dans des endroits où on est seul, et en plus, ils sont quand même pas complètement anodins, potentiellement un tout petit peu dangereux. Et que si jamais, il y a un moment donné, il y en a un qui a un souci, ben on sait qu'on peut compter sur l'autre. Et ouais, je pense que c'est vrai que ça rapproche les êtres humains et c'est ça qui est beau et chouette, je trouve, encore une fois, dans la course au large, c'est la compétition, la rivalité qui peut être très importante, tout en ayant beaucoup de respect, beaucoup d'amitié, beaucoup d'échanges entre nous, entre marins. Je pense que pour moi, c'est là où la compétition est belle, hein. C'est quand il y a ces liens humains et quand il y a ces relations entre les personnes, on n'est pas des robots qui s'affrontent, on est des humains avec du respect, avec de l'amitié. Et c'est là où je trouve que les moments de compétition sont les plus beaux.
Merci à vous, François Gabart. Je signale votre livre, Rêver large, aux éditions Stock.
Eh ben merci Armel, à plus.
Merci François, à bientôt.
Je peux vous dire que moi, le temps d'un bivouac, c'était podcasté sur mon bateau l'an dernier. Je suis un grand fan, donc merci pour votre émission. Et...
Ben merci, ben alors j'espère à bientôt, avec plaisir, pour vous recevoir dans l'émission Un de ces jours. À très bientôt.
Ça marche, à bientôt.
Au revoir.
Merci,
au revoir. Salut.
Au revoir Armel, et bon retour en Bretagne.
Merci, à bientôt.
Bon, je dois te laisser, je t'enverrai une carte postale.
Et bravo à François Gabart qui a remporté il y a 3 jours la course The Bridge. Après le journal, vous avez rendez-vous avec Julia Molcou pour le Mac de l'été. Aujourd'hui, Julia est en direct de Arles pour les rencontres de la photographie avec, entre autres, Benjamin Millepied.
Arrêt à l'abordage, souquez les artémuses.